Chapitre 15. La première chose qui vient à l'idée de Mary Pat quand elle regagne son appartement, c'est qu'elle a été cambriolée pendant qu'elle était à la manifestation. Plus rien ne lui semble familier. Elle se demande si par hasard, elle ne serait pas entrée dans un autre logement. Même disposition que le sien, oui, mais le plan de travail dans la cuisine est propre. Les sols ont été balayés. Les cendriers vidés. Pas une seule canette de bière, pas un seul verre poisseux, pas une seule boîte à pizza en vue. Mais deux secondes plus tard, elle se souvient. Ce sont ces garces qui ont nettoyé mon appartement. Serait-ce la raison pour laquelle elle a pris autant de plaisir à leur filer une bonne trempe? Possible. Tout à fait possible. Elle va dans le couloir, entre dans sa salle de bain, se plante devant le lavabo et se regarde dans le miroir. Il y a comme une souris qui est en train de grossir sous son œil gauche, des griffures sur son front, aucune vraiment profonde, une dans le cou, très profonde celle-là, et le col de son corsage est trempé de sang. Et sa lèvre supérieure est enflée. En plus, ce que le miroir ne montre pas, c'est le tintement dans son oreille droite, comme une saleté de téléphone qui n'arrête pas de sonner. Elle s'est aussi tordue le genou gauche bien comme il faut, et quelqu'un lui a marché sur la cheville de la même jambe. Elle s'occupe d'abord de son cou, se servant de tampons de coton et d'eau oxygénée, surprend son reflet dans le miroir en train de sourire, alors qu'elle se crispe sous la douleur. La douleur. Ça veut dire que l'eau oxygénée fait de l'effet, disait toujours sa mère. Se nettoyer, ça fait mal. Mary Pat colle un large pansement couleur chair sur la plaie une fois qu'elle l'a désinfectée. Elle a tout un panier de sparadrap, de pansements, de compresses, de teintures d'iode, de ciseaux chirurgicaux et d'antiseptiques sous ce lavabo. C'est comme aux urgences du City Hospital ici. À l'époque où Dewey était dans le milieu, elle en avait besoin, bien sûr. Après sa mort, elle avait tout gardé pour Noël, qui ne pouvait jamais affronter un conflit sans le faire dégénérer en bagarre. Telle mère, tel fils. Elle sourit de nouveau. La vérité, c'est qu'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours aimé se battre. Littéralement. Son plus ancien souvenir concret digne de ce nom, c'est celui de Willie Pike, en train de passer à vélo dans la flaque d'eau devant le petit bout de pelouse où Mary Pat, âgée de 4 ans, était assise et s'occupait amoureusement de la chevelure de sa poupée de chiffon, Raggedy Ann. Elle avait vu le regard malicieux dans les yeux de ce petit enfoiré tandis qu'il dirigeait son vélo vers la flaque d'eau. Et il avait vu qu'elle avait vu. Et il s'était mis à pédaler encore plus vite, le petit merdeux. Et il était entré dans la flaque, ses roues faisant gicler sur Mary Pat et Raggedy Ann, cette eau boueuse qui ne venait probablement pas de la pluie. Ces flaques apparaissaient dans tout Commonwealth, même pendant les semaines de temps sec, et elle sentait le soufre et l'eau de Javel. Mary Pat avait poursuivi Willie Pike sur la longueur de 4 immeubles jusqu'au moment où il avait dérapé dans un virage. Et quand elle lui était tombée dessus, elle ne s'était pas arrêtée, un signe avant-coureur. Elle ne s'arrêtait jamais dans une bagarre. Elle s'était déchaînée. Il avait 6 ans et c'était un garçon. Alors elle n'avait aucune chance de gagner. Mais il saignait des deux narines et il pleurait comme une lavette quand il était enfin parvenu à prendre le meilleur sur elle. Il lui avait filé quelques beignes avant que la vieille McGowan ne vienne le saisir par le col et lui donne une paire de claques sur les joues pour faire bonne mesure. « Pour sûr, lui avait dit la vieille McGowan, son père n'allait pas manquer de lui filer une bonne rouste à coups de ceinture sur les fesses pour avoir battu une petite fille. » La vieille McGowan lui avait donné encore quelques coups dans l'épaule avec ses doigts, histoire de ponctuer ce qu'elle disait. Puis, elle avait raccompagné Mary Pat jusqu'à la flaque d'eau afin de récupérer Raggedy Ann. Quand Mary Pat avait ramassé sa poupée, elle avait eu l'impression de brandir un trophée. Elle s'était battue encore une vingtaine de fois au moins avant d'entrer en sixième. Et ça n'était que les bagarres à l'extérieur de la maison. À l'intérieur, chez les Flanagan, c'était la foire d'empoigne du lever à 7h du matin jusqu'à l'extinction des feux à 10h du soir. Les garçons, John Patrick, Michael Shun, Donnie, Stevie et Bill, partageaient la même chambre. À un moment donné, la dernière année de John Patrick à Southie High et la première année de cours élémentaire de Bill, tous les cinq s'y trouvaient en même temps. Le père de Mary Pat, les jours où elle se souvenait l'avoir effectivement vue à la maison, disait que dans leur chambre, ça sentait comme dans le trou du cul d'un poisson. Après le départ de John Patrick, il était parti vers l'ouest en stop et personne n'avait plus eu de ses nouvelles pendant 20 ans. Une bataille avait eu lieu pour son lit du haut. Donnie, qui était plus fort que Michael Shun, l'avait eu les premiers mois, mais Michael Shun avait passé toute cette année-là à s'entraîner à la salle de sport de Hell Street jusqu'au moment où il était devenu le plus costaud. Environ une semaine de castagne et deux nez cassés plus tard, Michael Shun avait eu le lit du haut. Mais Stevie ne pouvait pas supporter le bruit que Michael Shun faisait en ronflant avec son nez cassé. Et il avait essayé d'étouffer son frère avec un oreiller. Stevie, qui possédait le regard le plus effrayant que Mary Pat ait jamais vu, avait toujours été complètement fêlé. Et leur mère était intervenue pour l'en empêcher. Stevie, 13 ans à ce moment-là, petit et d'une férocité de bête sauvage comme leur mère, avait projeté la tête de celle-ci contre une fenêtre et avait cassé la vitre. Cette fois, il avait décroché la timbale. Il l'avait fait embarquer à l'asile Saint-Luc pour garçons perturbés et il n'en avait plus jamais reparlé, même quand ils avaient vu son nom dans les journaux 10 ans plus tard à propos de ce hold-up qui avait tourné au drame affreux à Everett. Les points de suture, noirs, épais et durs comme du métal tous les 7, étaient restés à l'arrière de la tête de leur mère pendant 3 semaines. Et quand les fils étaient tombés, ça n'avait pas arrangé grand-chose. Tout le restant de sa vie, les cheveux de Louise Flanagan avaient poussé autour de cette cicatrice, refusant obstinément de retomber par-dessus, si bien qu'on avait l'impression qu'il suffisait de baisser une fermeture éclair rougeâtre à l'arrière de son crâne pour avoir accès à toutes ses pensées, tous ses secrets, toutes ses hontes. Non que sa mère n'ait pas été capable de distribuer autant de nions qu'elle en prenait. Aujourd'hui encore, Mary Pat ne peut pas voir une cuillère en bois sans se rappeler la douleur cuisante d'un coup sur son poignet, sa joue, ou d'un coup du manche dans le ventre. Et ça, c'était pour les petites bêtises. Pour les grosses, c'était la chaussure de Wheezy. Elle en avait 3 paires, toutes datant d'avant-guerre, toutes faites pour durer. Tous les 5 ou 6 ans, elle faisait mettre des semelles neuves et là, tout le monde marchait sur des œufs pendant des semaines, espérant ne pas être celui ou celle qui serait choisi pour les assouplir un peu. Quand le vieux était là, il fallait se méfier de ses mains, des articulations de ses phalanges, aussi dures et saillantes que des écrous de roues de voiture, du cou de son index qui s'écartait de son pouce pour cogner contre votre tempe, de ses doigts qui vous empoignaient les cheveux pour vous traîner sur le sol jusqu'à sa ceinture, comme il l'avait fait le soir où Mary Pat n'avait rapporté que des 0 sur son carnet de notes. Jamie Flanagan aimait cette ceinture par-dessus tout. Il l'accrochait à un clou, juste à côté de la porte de la salle de bain, et la réservait à cet usage exclusivement. Pour tenir son pantalon, il en avait une autre. Et puis, il y avait les escarmouches internes, entre 2 frères, entre 2 sœurs, entre 1 frère et 1 sœur, ou, les pires de toutes, entre 2 d'un côté et 1 seul ou 1 seule de l'autre. Après que Stevie et son caractère de grenade dégoupillée eurent été évacués de la maison, c'était Donnie et Big Peg qu'on évitait le plus possible. parce qu'on ne savait jamais à quoi s'en tenir avec ces deux-là. Mais Mary Pat et Bill, une fois qu'il eut grandi, étaient ceux que tout le monde se gardait bien de mettre vraiment en colère, parce que ni l'un ni l'autre ne possédaient de bouton d'arrêt. Après sa dernière bagarre avec Big Peg, Mary Pat avait passé deux nuits à l'hôpital avec commotion cérébrale et fracture multiple à la tête parce que Big Peg l'avait frappé en plein visage avec une brique. Mais ce que personne n'avait jamais oublié, c'était qu'avant l'arrivée de l'ambulance, Mary Pat avait repris connaissance et avait terminé cette foutue bagarre avant de s'évanouir de nouveau. « Je t'ai frappé avec une brique », avait dit Big Peg quand on l'avait poussé dans son fauteuil roulant dans la chambre d'hôpital où il rendait visite à Mary Pat. « Une brique !»« La prochaine fois, prends un parpaing », avait répondu Mary Pat. Cela fait des années qu'elle n'a pas revu un seul de ses frères. Michael Shun s'est engagé dans la marine marchande des États-Unis et parfois, à Noël, il envoie une carte postale de port où il fait escale et dont elle ignorerait l'existence sinon. Cap-Vert, Maldives, Sandwich du Sud. Donnie vit à Fall River et il installe des gouttières. Il n'y a pas de rancune entre eux. Juste la prise de conscience tacite qu'ils n'ont jamais été rattachés par d'autres liens que celui du sang. La dernière fois qu'ils ont entendu parler de Bill, il purgeait une peine de 10 ans pour avoir poignardé quelqu'un au Nouveau-Mexique, ce qui avait de quoi surprendre. Pas les coups de couteau, mais le Nouveau-Mexique. La chaleur l'avait toujours rendu irritable, ce qui, à bien y réfléchir, expliquait peut-être les coups de couteau. Mary Pat finit de se nettoyer et jette toutes les boules de coton tachées de sang dans la poubelle et essuie le lavabo avec une giclée d'alcool à 90. Elle se regarde dans le miroir. À voir son visage, on pourrait croire qu'elle a été éjectée de l'arrière d'un camion sur un tas de gravier. Ses mains la brûlent. Pas seulement les articulations, mais les poignets aussi. Ses côtes sont douloureuses. Son oreille tinte toujours autant. Son genou et sa cheville ont besoin d'une poche de glace. Elle en prend dans le congélateur. Elle allonge la jambe sur une chaise de la cuisine, pose une serviette pleine de glaçons sur sa cheville et une autre sur son genou. À l'extérieur, Commonwealth s'est étrangement calme. Tout le monde doit encore être à la manifestation ou dans les bars aux alentours du City Hall. Elle reste assise là et fume, faisant tomber sa cendre dans un cendrier tout propre. Elle n'arrive pas à croire à quel point sa cuisine est impeccable. Elles ont vraiment fait du bon boulot. Du travail de pro, se dit-elle avec un sourire. Pour la première fois depuis une semaine, elle aime la façon dont elle se sent. Meurtrie, avec des plaies, en train de former une croûte. Le goût du sang dans la bouche, que certains disent amer, mais qu'elle a toujours trouvé plutôt proche d'une saveur beurrée. Elle tend la main derrière elle et allume la radio. Et le présentateur, juste après un intermède publicitaire, l'invite à s'installer confortablement pour écouter du Mozart. Un enfant prodige qui a commencé à composer à l'âge de 5 ans.
« La sonate pour piano numéro 11 »
dit le présentateur d'une voix douce comme du caramel,
est aussi connu sous le nom Rondo alla Turca. Composée comme une bagatelle, elle est devenue au fil du temps un de ses morceaux les plus populaires dans le monde entier.
Elle a l'impression que la voix du présentateur lui parvient de la plus sombre des pièces. Elle l'imagine dans l'obscurité, entourée des ombres noires des étagères de livres. La musique commence. Mary Pat ferme les yeux et se met à flotter dans la danse légère des touches de piano. Mozart savait ce qu'il était censé faire. Il n'a pas passé son temps à chercher à quoi il était bon. À 5 ans, il ne cherchait pas. C'est elle qui l'a trouvé. La grandeur. tout comme elle a trouvé le bras, les yeux et les jambes de Ted Williams, le joueur de baseball. Tout comme elle a trouvé la plume de James Joyce. Non que Mary Pat ait lu une ligne de Joyce, mais elle sait qu'il est le plus grand écrivain irlandais de tous les temps. Le travail ne vous fait avancer que jusqu'à un certain point. Il faut se consacrer à ce pourquoi vous êtes fait. Mary Pat, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, a été battue, parfois légèrement, parfois durement. Elle a reçu des coups de poing, on l'a fait tomber. Elle a été frappée avec un cintre, frappée avec un manche à balai, avec une batte de baseball, avec ses cuillères en bois, les chaussures de sa mère, la ceinture de son père. Un jour, Denis lui a lancé un pain de savon brun derrière la tête qui l'a carrément fait tomber par terre. Dans la rue, elle s'est battue avec des filles, avec des garçons et même avec des bandes des deux. Chaque fois qu'une personne s'en est prise à elle, elle a riposté. Tout au long de son histoire, contre tous ceux qui l'ont maltraitée, qui lui ont tiré les cheveux, une oreille ou le bout d'un sein, tous ceux qui lui ont hurlé dessus, qui lui ont mal parlé, qui l'ont frappée avec une ceinture ou une chaussure. Tous ceux qui l'ont fait se sentir comme une petite fille effrayée, se demandant dans quel foutu merdier elle était née. Elle ne se souvient pas de cette fille-là, mais elle la sent. Elle sent sa confusion et sa terreur. Face au bruit et à la fureur, face à ce déchaînement de rage qui tourbillonnait autour d'elle et la faisait tourner sur elle-même jusqu'à lui donner un tel vertige qu'elle avait dû apprendre à marcher dans cette tourmente sans tomber pour le restant de sa vie. Et elle a bien appris. Elle n'est jamais plus heureuse que lorsqu'elle est face à l'hostilité. Jamais plus ravie que lorsqu'on lui a causé du tort. La douleur de son deuil lui a fait perdre les 4 derniers jours de sa vie. Ok. Le deuil n'est pas terminé, loin s'en faut. Mais elle décide, tandis qu'elle se lève et jette la glace dans l'évier, qu'il peut bien faire une petite pause. Elle ouvre toutes les canettes de bière du frigo, l'une après l'autre, et elle les verse dans l'évier avant de balancer les canettes vides à la poubelle. Puis elle s'attaque aux bouteilles de whisky, de vodka, et même, bon Dieu, qui a bien pu apporter ça chez moi, de liqueur de pêche. Elle rince l'évier jusqu'à ce que l'odeur ait disparu. Puis elle l'essuie avec les serviettes dans lesquelles elle avait mis la glace et les met aussi à la poubelle. Elle jette un coup d'œil à son plan de travail et décide qu'il restera tel qu'il est. À partir de maintenant, ses plans de travail clairs et nets. Plan de travail clair et net, idée claire et nette. Elle remplit les bouteilles vides d'eau du robinet et les met dans un carton. Elle ajoute du papier toilette, des sachets de chips et de cacahuètes, du pain. Elle fait le tour de l'appartement avec une autre boîte où elle entasse tous les vêtements dont elle aura besoin au cours des quelques jours à venir. Elle prend le panier de produits pharmaceutiques sous le lavabo de la salle de bain. Elle porte les deux boîtes et le panier jusqu'à Bess et elle charge tout dans le coffre. De retour à l'appartement, elle va chercher le sac à outils de Dukie dans un coin de son placard. C'est ainsi qu'il l'appelait toujours, son sac à outils. Il est en toile vert foncé, et s'il s'était fait arrêter en sa possession, ce sac aurait ajouté quelques années de plus à une condamnation pour cambriolage. Il contient les outils de sa profession. Des rossignols, un coupe-verre et une ventouse, du ruban isolant, un stéthoscope, 2 coupe-boulons, un petit et un grand, plusieurs montres, dont les piles sont mortes depuis longtemps, des bas en nylon pour en faire des masques, plusieurs paires de gants, un poinçon repoussoir, du ruban adhésif en toile, des jumelles et des menottes avec la clé. « Seigneur Dukie, pense-t-elle, des menottes, pourquoi faire ?» « Peu importe, dit-elle tout haut. Je veux pas le savoir. » Elle laisse les montres qui ne fonctionnent plus, va dans la cuisine et fourre dans le sac tous les couteaux bien tranchants. Elle prend le sac plein d'argent de Marty dans le tiroir de sa commode et va ranger le tout dans le coffre de Bess avec le reste. Revenue dans son appartement pour la dernière fois, elle reste là, à le contempler un petit moment. Elle vit là depuis ses 22 ans. Peut-être le reverra-t-elle plus tard. Peut-être pas.